Flux, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la 10e émission de Flux, le rendez-vous mensuel de Sylla pour aborder les actualités culturelles rennaises avec nos invités. Je suis bien évidemment accompagné de Malouve à la co-animation. Ah, comment va-t-elle?
Très très bien.
Ouais, en forme?
Ouais, ouais, très en forme.
Est-ce que t'es allé voir le dernier film de DiCaprio alors?
Non, parce qu'hier, pardon, je vais refaire un point météo comme toutes les débuts d'émission, mais
peux.
Il faisait trop beau, du coup je pouvais pas passer 3 heures dans une salle,
c'est
malgré Leonardo. Non, mais je veux pas, je crois que j'ai pas envie.
C'est 2 films à voir, peut-être que notre invité en a vu un des deux. À la technique, notre cher Pierre-Louis est aujourd'hui remplacé par Clara. Merci beaucoup Clara d'être
salut,
avec
Clara.
Nous.
Salut Clara. Salut, merci d'être avec nous.
Et pour cette 10e émission, on a le plaisir d'accueillir Gaëtan, programmateur de l'Antipode.
Gaëtan Naël.
Depuis quelques années, je ne sais plus combien de temps.
Ah oui d'ailleurs, on cherchait cette info.
Bonjour.
Bonsoir.
Depuis décembre 2008.
Ah okay. Ouais, décembre 2008.
Donc,
t'avais quel âge, Cyprien?
Juste après les dinosaures, quoi.
J'avais 14 ans, je vais discuter mes 14 ans. On va discuter ensemble un peu de la direction artistique de l'Antipode et de Cool Thing, surtout la deuxième édition, pardon, du festival de musique alternative qui aura lieu les 7 et 8 novembre prochains. Bienvenue dans Flux, Gaëtan, comment ça va?
Eh bien, ça va bien.
Ouais.
Ça fait très très longtemps que je ne me suis pas retrouvé derrière un micro, donc... Faudra pas hésiter à me reprendre, je pense notamment en technique, que je sois à la bonne distance pour qu'on puisse
parfait,
m'entendre.
Bon, t'es un habitué quand même des interviews radio.
Ouais. Il y en a quelques-unes.
pour commencer cette première partie d'interview, on voulait plutôt revenir sur ton parcours à toi. Et après, on parlera évidemment de Cool Thing. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a mené à devenir programmateur à l'Antipode? Et plus largement, nous raconter ton parcours et ce que tu faisais de ta vie avant, du coup, 2008.
Ouais, ok, vous avez beaucoup de temps.
En
fait, arriver à la programmation à l'Antipode, c'est arrivé par hasard, en fait. Il y a un poste qui s'est libéré à l'Antipode. C'était un poste de coordination et de programmation. Et puis, je ne me sentais pas légitime pour postuler, tout simplement. Et puis, j'ai été appelé à l'époque par le directeur de la structure, qui m'a dit « ça serait bien que tu candidates ». Et l'une des personnes qui avait occupé ce poste quelques années auparavant m'a aussi appelé pour me dire « je pense que ça vaut le coup que tu postules
okay. ».
Donc, j'ai postulé, comme tout le monde. Je crois qu'il y avait quasiment 700 candidatures. Et puis, il y a eu un
700
premier entretien.
700 ?
Ouais, ouais.
À cette époque,
c'était un peu délirant, ouais. Je pense que c'était aussi une autre époque.
Ah hein. Oh, waouh, ouais, je pensais que, tu vois, c'était moins avant.
On va dire bah, peut-être ouais. les premières boucles avec toutes les personnes qu'on envoyait vers les masters.
Ah oui, ok.
Tous les masters culture qui sortaient. C'est vrai qu'il en reste quelques-uns, mais il y en avait quand même beaucoup début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Donc on était 2008, donc là il y avait quand même beaucoup de monde sur le marché. Ne pas oublier qu'on est à Rennes, donc une ville qui est connue pour la musique, on va dire un historique et qui est encore bien vivant autour du rock.
Toi, tu avais l'habitude d'aller à l'Antipode avant d'y travailler ou pas?
Eh bien, très peu.
Ouais.
Très peu. J'avais fait quelques soirées musique électronique. Et puis, j'avais fait, je me rappelle, une soirée avec Interpol, qui était un peu du grand n'importe quoi, parce que c'était... complètement en surjauge, la capacité c'était 500 et je crois qu'ils avaient vendu, allez on va dire peut-être 700,
oh non.
Okay. Un truc complètement, et c'était bien une autre époque, voilà, faut accepter.
Oui.
Donc beaucoup de monde, il y a eu donc un premier entretien et puis un deuxième entretien, et puis un deuxième entretien, il y a la surprise d'être retenu en fait.
Et avant t'as travaillé au Transmusical?
Ouais, et
c'est
avant j'ai travaillé au Transmusical pendant 6 ans où je m'occupais de la communication de la salle Ubu.
Ah oui, ok.
Et l'accompagnement artistique.
Ok.
Donc c'était à l'époque le début, le lancement, et puis c'était la période où la tournée des trans correspondait à une vraie tournée, au sens où il y avait 15-16 dates sur le Grand Ouest. Il y avait beaucoup de monde sur la route, et on faisait un petit peu tout. Donc je faisais autant le suivi des contrats que les réservations d'hôtels, les runs.
La prod, quoi.
La production.
La prod, le lien avec toutes les salles.
Prod.com, en fait, en vrai.
C'est ça. Et puis, il y avait une autre dimension. On éditait, l'association Intermusicale éditait une compilation, une autre compilation, qui était la compilation liée à la tournée. Et là, on avait tout un travail de démarchage des labels, éditeurs, maisons de disques.
Il y avait deux compilations, du coup, à l'époque.
Ouais, okay. Tout à fait.
Et maintenant, il n'y en a plus aucune, du coup.
C'est ça.
Mais c'est un autre taf, ça, quand même.
Et en fait, il y avait une personne avec moi en stage tous les ans. Et on faisait le démarchage. Donc, on avait fait du démarchage pour, je sais pas, Waxtelor, Dajla. Enfin, la liste, elle est longue. Et puis, ben, pour certains, il y a eu des belles suites. Et puis, pour d'autres, ben, un peu à l'image de ce qu'est l'énergie du festival, il peut se passer le meilleur comme un peu moins de choses, quoi.
Et ta première expérience de taf, c'était... T'as toujours voulu travailler dans ce milieu ou t'y es arrivé un peu... Enfin,
ouais, j'y suis arrivé...
T'as fait des études pour ça ?
Non, enfin, les études, c'était, j'avais plutôt un profil art plastique.
Ouais.
Voilà, donc j'ai fait des études d'art entre Paris et Rennes. Et puis, à un moment donné, il a fallu faire des choix entre est-ce que je me destine à être artiste au sens plasticien. Il y avait des collaborations, des petites choses heureuses qui commençaient à se passer, mais il fallait se poser les bonnes questions. Et à partir de là, je me suis dit, ben non, je ne vais pas être artiste.
Okay.
Et je vais plutôt travailler dans la partie qui correspondait aussi à ce que je faisais depuis mes 15-16 ans, c'est-à-dire organiser des concerts, écrire des fanzines, sortir des disques, aider des groupes à se développer. Et
c'était pas à Rennes, ça, à l'époque.
Ouais, c'était entre... Si, c'était Rennes, essentiellement.
C'est plus Rennes. Ah
ouais,
oui, ok.
Tout à fait.
Je pensais que c'était plus vers Redon.
Alors, il y avait un festival qui s'appelait Papa n'aime pas le bruit, qui était à Redon, qui a été aussi un tremplin. Et puis, on était une association, un collectif. Et puis, ça s'est développé, ça s'est étendu. Et puis, ça a permis à plein de gens de travailler dans la musique, finalement. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Le directeur du Printemps de Bourges, par exemple, était dans l'association, exemple. Okay. Personne responsable export chez Because Music, des managers d'artistes, etc. Donc, on a tous un lien de près ou de loin à la musique. Il y en a un qui vit pleinement de sa vie d'artiste, qui vit entre Seattle, Portland, Aberdeen, et qui est batteur professionnel, qui joue dans des groupes, qui fait des sessions, etc.
Okay.
Qui avait une émission d'ailleurs sur Syllab il y a quelques années, qui s'appelait Soda and Soda.
Ah oui, ok.
Le clin d'œil au morceau de Deus.
Okay.
Ah oui, oui.
Et puis, j'ai perdu le film, et tout ça pour dire qu'il a fallu que je choisisse.
Ouais, c'est ça, et t'as fait
J'ai fait des études plutôt de gestion et management culturel sur Paris.
Ah oui, donc t'as continué tes études là-dedans quand même.
Un petit peu avant, j'avais eu quelques expériences de travail, où j'ai travaillé sur l'événementiel en production, administration, mise en place d'événements.
Okay.
Et puis j'ai passé un master, enfin à l'époque c'était un DESS.
Ouais.
C'est là qu'on voit que j'ai quelques années de vol. Et puis j'ai un premier temps de travail, c'était à la ferme du Buisson, à Noisiel, nationale. Et là, j'ai Béatrice Massé, à l'époque, qui me passe un coup de téléphone et qui me dit qu'elle cherchait quelqu'un à l'UBU, à la com. Est-ce que j'étais d'accord pour faire un entretien? Et donc, j'ai fait un entretien et puis j'avais des attaches en région Bretagne.
Ouais.
Donc forcément, je suis revenu, j'ai passé l'entretien. Et puis à la fin de l'entretien, c'est pareil, toujours un peu curieux, mais... aussi qui correspond à ce qui se passait à une époque, on me dit, t'es pris. Et donc, les 15 jours d'après, je démarrais au Transmusical. Quoi.
Okay.
Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de position, et ce qui est très curieux par rapport à maintenant, où on est sur des marchés saturés, ou si le secteur culturel fait quand même moins envie. J'ai jamais été dans une démarche, en fait, de chercher du travail.
Mais c'est ce que j'allais dire, l'UBU t'a appelé, l'Antipode t'a appelé, quoi.
Ouais, c'est
classe.
Ouais. Ouais, et c'était bien une autre époque.
Il était engagé, en fait, aussi.
Oui, non, mais...
Il y avait beaucoup de bénévolat.
C'est cool dans ce sens-là, quand même. Tu sais pas, peut-être qu'on va t'appeler. Hein.
Ouais, bien sûr.
Qui va t'appeler?
Ça te manque la production, Gaëtan, ou pas? Dans ton quotidien?
Ça me manque, oui et non. En fait, c'est un peu comme la production. J'ai démarré par l'action culturelle. Hein. Noisiel, Ferme du Sens, c'était l'action culturelle. En fait, j'ai l'impression que c'est important, au-delà d'avoir une connaissance théorique, d'avoir une connaissance pratique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de faire l'action culturelle, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la production, quand bien même, évidemment, ça a évolué. Il y a des outils qui sont apparus, des manières de penser le monde qui ont aussi évolué. Néanmoins, le socle de ces métiers reste les mêmes. Quand il faut réserver une chambre d'hôtel, ou calculer des trajets, faire un plein d'essence, ou caler un train, interfaces ont peut-être changé parce qu'il y a des technos qui sont arrivés, mais dans les faits, c'est la même chose. On a besoin d'un ticket pour prendre le train, quoi.
Ta direction artistique à l'Antipode, à la base, je trouve qu'elle est toujours réfléchie et engagée. Et en plus, à l'Antipode, on a un fil rouge de saison. qu'on décide ensemble en équipe. Qui... Alors, je dis on parce que c'est vrai que dans Flux, normalement, on ne fait pas trop dans l'entre-soi. Mais ce soir, on est full entre-soi.
C'est vrai.
On travaille tous là-bas. Et du coup, je reprends. Donc on a ce fil rouge qui change tous les ans. Rêver demain, faire corps. Et cette année, cultiver la joie. Et à quel point ce fil rouge te guide dans tes choix?
Je pense qu'il me guide sans me guider. C'est-à-dire qu'au moment où on l'a choisi, il y avait quand même pas mal de choses de poser.
Déjà posées pour la saison d'après, ouais.
Ouais, j'essaie plutôt d'être en réaction par rapport à un contexte global, ouais, sociétal, et puis de pouvoir se dire que le travail qu'on est amené à faire, il arrive à des moments plutôt de plaisir, au sens en dehors des temps de travail des personnes qu'on est amené à accueillir. Et donc d'arriver à poser le bon curseur entre à la fois être en effet engagé, être dans des... dimension réflexive des projets, des propositions, et ne pas oublier que les gens viennent aussi là pour s'amuser, viennent entre amis, viennent là pour passer un bon moment. Donc il y a une sorte de yin et yang, je ne sais pas comment le dire autrement, un yo-yo permanent là, entre ce qu'on aura envie de faire et ce pourquoi les gens viennent, et ne pas mettre... ne pas se tromper de curseur. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du dimensionnement. Voilà.
Ok. Et tu es un grand passionné de musique en tout genre. La plupart du temps, tu programmes des artistes qui te touchent toi-même. Est-ce que ça t'arrive de programmer des projets qui te touchent moins toi? Mais dans le sens, comment tu fais la part des choses par rapport à tes envies et à la réalité du métier où à un moment, on te propose cet artiste. Et puis peut-être que même si des fois, t'aimes pas toi... tu te dis, ça va plaire quand même, ça plaît. Comment tu gères ça? Ça m'intéresse de savoir.
Alors, je le gère plutôt bien, mais avec les années, au départ...
Il faut du recul quand même, je pense.
Et puis au départ, c'est pas évident. En fait, quand on arrive sur ces postes, on prend rapidement la mesure qu'on est dans un endroit de décision. Et qui dit décision, dit finalement un endroit de pouvoir. Et je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir... bien prendre en compte un projet artistique et culturel, pouvoir l'assimiler et surtout le travailler, le mettre en mouvement. Je tiens toujours, et ça sera peut-être un fil conducteur sur l'interview, mais je tiens toujours à ne pas rester strictement dans les cases et dans le cadre qui est posé.
Ouais.
Et j'aime jouer de ce cadre, mais avec respect. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tordre le cou à des idées ou à des envies.
Ça te fait ta singularité aussi, mais dans ce que tu fais.
C'est gentil.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il y a ce... en tout cas, ça m'intéresse vraiment de travailler dans cette dimension-là. Et pour revenir à ta question, y a des moments, c'est plus difficile que d'autres. Il y a des provisions qui arrivent. Mais je crois que c'est vraiment l'un des moteurs, c'est la dimension à qui on s'adresse et à qui... pourquoi on fait ce travail-là et à qui on souhaite s'adresser.
Ouais, déjà,
et à partir de là, ça régule, en fait.
Ouais, c'est ça. Mmh. Si tu te poses cette question-là, ça te guide.
Ouais, tout à fait.
Ouais, ok.
Et ne pas oublier qu'on travaille aussi pour une équipe.
Mmh. Oui.
C'est une équipe de bénévoles, une équipe de salariés. Et qu'à un moment donné, il y a ce que nous, on peut aimer, apprécier, on va dire, son ou ses jardins secrets. Et puis, la réalité du travail qui est effectué, la réalité aussi de modèle économique.
Mmh.
Qu'il ne faut pas oublier.
Ah, oui.
Et finalement, quand on mélange un peu tout ça, on arrive à des constats assez évidents. Pour moi, en tous les cas.
Ok. Qu'est-ce que tu défends à travers la programmation que tu proposes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi?
Ouais. Ce qui...
Mais dans Cool Sing, on va en reparler après, je pense.
Ouais, on en parlera tout à l'heure, c'est sûr. Mais la question de la diversité au sens large... ce rapport qui est toujours très tenu à l'industrie. Alors l'industrie, finalement, c'est tous ces gros groupes qui décident pour le collectif de par un rapport très puissant, massif au pouvoir. Alors ça pourrait être le libéralisme, le capitalisme. Enfin, finalement, c'est toutes ces notions et tous ces éléments qui vont se mélanger, qui vont venir faire pression et qui vont venir imposer... à des personnes, des écoutes, des mouvements, une une sorte d'obligation. Donc ça va de la manière dont on se fait hameçonner sur les réseaux sociaux. Il y a des publicités qui nous arrivent et c'est tel type de musique plus que tel autre. C'est la manière dont l'algorithme va être amené à travailler via IA ou autre sur des plateformes.
Après, ça c'est plutôt bien fait parce qu'en vrai, nous qui écoutons beaucoup de musique indé, on a quand même les. On a des propositions indées, on n'a pas des, tu vois, des trucs, je sais pas, qu'on écoute sur Énergie ou, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais
c'est bien fait, mais tout ça est déjà transformé, donc c'est tellement bien fait qu'on va te mettre dans un silo, et c'est là aussi, c'est une industrie qui va décider pour toi et qui va concentrer, orienter et qui va finalement, d'une certaine manière, te couper de d'autres mondes, d'autres possibilités.
Ouais, je vois.
Donc, au tout début de l'arrivée des IA et des algorithmes, j'ai essayé de jouer avec. Puis je me rends compte qu'assez rapidement, c'est quasi impossible. Parce qu'en effet, l'algorithme et ses algorithmes et ses datas sont beaucoup plus forts que tout le monde, j'ai l'impression. Donc, je m'autorise plutôt à des décalages, à des décrochages complets. Ça peut être aller dans une maison de la presse et aller vraiment... vers des magazines auxquels on serait spontanément pas allé. C'est aller dans un magasin de disques et de se dire, tiens, en fait, c'est là où j'ai l'habitude d'acheter mes disques, ce mètre carré-là, et si je me décale un tout petit peu, qu'est-ce que ça dit? Ça peut être un rapport à des pochettes. On a un rapport aussi sensible aux disques, à des univers, et de se dire, bah, tiens, cette pochette-là, je l'aime pas. Et en même temps, pourquoi je l'aime pas? Qu'est-ce qu'elle va me raconter? Qu'est-ce qu'elle va me dire?
Et ça te donne envie d'écouter, du coup.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est aussi à l'antipode. Alors, je le fais un petit peu moins actuellement, mais je l'ai beaucoup fait. C'est dialoguer avec les jeunes. Parce que là, on entend et on capte plein, finalement, d'informations, de possibilités. Donc, c'est toujours cette dimension, être comme une éponge par rapport à ce qui se joue, à ce qui se travaille, pour, d'une certaine manière, rester peut-être humain face à une technologie qui est hyper descendante.
Ouais, c'est sûr.
Et actuellement, tu n'utilises pas du tout l'IA dans ton travail de programmateur?
Non, j'utilise pas l'IA. Ça m'amène quand même à me poser des questions.
Oh, on est tous là, je pense.
Est-ce que je l'utilise pas parce que j'ai décidé de pas l'utiliser, mais de quelle manière elle ne m'est pas déjà imposée? Et n'est-elle pas déjà intégrée dans ma pratique? Sans se persuader que je ferais mieux que d'autres. Je crois qu'elle est déjà présente. Je crois que je suis déjà amené à pas la dompter, mais à jongler avec. Et puis forcément, le principe de réalité, c'est se déconnecter. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'aller chez un disquaire.
Là, en tout cas, tu le fais pas. Enfin, là, il n'y a pas d'IA.
Ouais, voilà. Là, on se décroche, quoi. Là, on accepte une sorte de rupture.
Ouais, parce que tu vas encore beaucoup chez des disquaires.
Oui, j'essaie de me dire toutes les semaines, j'essaie de passer chez un ou deux disquaires.
Ouais. Tu fais des découvertes, du coup, parfois?
Je fais des découvertes, je suis aussi amené à échanger avec les disquaires, pour le coup.
Ouais.
Donc tout ça alimente. Mais je l'ai vraiment intégré dans mon temps de travail.
Ok, merci Gaëtan.
C'est l'heure
du premier morceau. Alors j'ai choisi
qu'on va
un
écouter
morceau de Guise. J'imagine que tu connais Gaëtan.
Moi je connaissais pas.
Un groupe de New York, je crois. C'est leur troisième album. Et là on écoute un extrait de cet album qui est paru la semaine dernière. C'est Au pays du cocaïne. Let's go.
Stay with me, baby.
Quel morceau, j'adore. Franchement, je suis fan.
Ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi.
Tu valides ou pas, Gaëlle?
Je valide.
Ouais. Je reconnais bien ton okay. petit mood là, de morceau comme ça.
C'est quoi le petit mood?
T'as un petit mood de morceau sympa comme ça, que t'as envie d'écouter quand il fait un peu froid, là, je sais pas, c'est sympa.
Gaëtan, tu connais mon style.
Par cœur.
Ouais.
On va parler un peu de la deuxième édition du festival Cool Thing. Qui aura lieu le 7 et 8 novembre prochain. Du coup, il y a eu une édition l'année dernière, c'était la toute première. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né le projet de ce festival?
Waouh.
l'idée de base, comment
rêve.
Ça s'est développé?
Non, l'idée de base, c'est qu'on avait imaginé de l'arrivée de l'ancien Antipode, qui est actuellement le BAM, à l'arrivée de notre nouvel Antipode, de pouvoir imaginer, développer, avoir une proposition qui nous soit propre, et donc de mettre en place un événement pour différentes raisons. Ça s'est passé différemment. Il a fallu apprivoiser ce bâtiment, constituer une équipe, apprendre à travailler ensemble. Et puis continuer aussi toutes les différentes collaborations qu'on peut avoir avec le festival Mythos, la route du rock, et ainsi de suite. Tout un tas d'événements avec lesquels on a l'habitude de collaborer, travelling, enfin, je ne vais pas les citer tous et toutes. Et parallèlement, il y avait cette difficulté de pouvoir, la question des coups de cœur, la question des tout un type de programmation qu'on n'arrive pas forcément à présenter parce que cette industrie, elle est quand même très oppressante et nous impose beaucoup. C'est-à-dire que si on crée notre espace à nous, là, on va pouvoir décider, c'est nous qui allons inverser le rythme ou surtout imposer notre rythme. Et donc, c'est comme ça qu'est né cet événement. Alors, il a fallu aussi plusieurs saisons parce qu'il fallait trouver le bon créneau, la bonne période. Il y avait une vigilance aussi à avoir une programmation plutôt internationale. Donc, se garantir qu'il y ait des artistes hors territoire national qui puissent être disponibles. La période de confinement a, quoi qu'on en dise, a un peu compliqué les choses. Il y a eu le Brexit aussi qui a compliqué les choses aussi. Carrément. Avec les Anglais, donc Anglais, Américains. Des coûts qui ont globalement aussi augmenté. Donc tout ça a fait qu'il a fallu trouver le bon créneau, la bonne période et donc se connecter aussi à d'autres événements du territoire européen pour se garantir d'avoir des projets. Et peut-être c'est la question d'après. Le nom, c'est ça?
Ouais, bien vu.
Oh.
Wow. C'était vraiment la deuxième question, tout à fait.
Vraiment, quoi. Il l'a vu ou quoi?
Tricheur.
Non, j'ai pas vu.
Tricheur.
Mais... Et le nom, ça aura échappé à personne. Hein. C'est un des morceaux clés d'une formation américaine qui s'appelle Sonic Youth, qui a sorti en 1990 un album qui s'appelle Goo. Et donc le visuel de cette année, c'est un clin d'œil justement à cette pochette d'un graphiste plutôt très très connu qui a une touche comme ça à tout dessiner en noir et blanc. Donc nous on l'a passé en couleur et puis on l'a transformé. En l'occurrence c'est pas nous mais il y a une graphiste qui a travaillé dessus. Et pourquoi ce morceau de Sonic Youth? C'est que l'idée c'était de rapidement avoir un repère aussi au-delà du repère temporel, mais c'est aussi avoir un repère esthétique.
Okay.
Et c'était pas anodin de choisir un groupe comme Sonic Youth, donc un groupe américain, ce qui renvoie à la question internationale, d'un groupe qui a traversé aussi, en tous les cas, qui a une carrière relativement longue, avec plusieurs albums, et qui a toujours été dans la recherche, l'expérimentation. Quand même, certains diront que l'album Dirty ou Goo ont annoncé un virage et que le groupe est devenu plus commercial. Bon, je pense que tout ça pourrait être amené à se discuter. En tous les cas, c'est une formation qui a toujours cherché à essayer, à triturer. Mmh. Il y avait beaucoup de pédales, beaucoup de matériel. Ils désaccordaient, ils réaccordaient différemment leurs instruments. En tous les cas, il y avait une approche d'essayer les choses, d'expérimenter. Et c'est un peu à l'image de ce qu'on essaye, alors très modestement, de faire à l'échelle de l'événement. Et il y avait une autre dimension importante, c'était cette question de l'égalité femmes-hommes.
Okay.
Et d'avoir aussi comme nom d'événement un morceau. Derrière Sonic Youth, il y a quatre membres, forcément, mais il y a deux entités très fortes qui sont Thurston Moore d'un côté et puis Kim Gordon. Et d'avoir ce morceau chanté par Kim Gordon, c'était aussi peut-être un pied de nez, ou de se dire, voilà, l'égalité femmes-hommes, on le considère aussi finalement dès ce morceau. Quoi.
Et est-ce que tu avais d'autres pistes, peut-être pas forcément de titres précis, mais de groupes pour donner un nom à l'événement?
Oui, je m'étais fait un peu une liste, il faut être très clair, où j'avais été regarder des...
J'ai envie de faire 1000 blagues là, monsieur.
Ouais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La liste, elle est vraiment très, très longue.
Okay.
Et j'avais été à chaque fois sur des formations qui ont été dans des processus de recherche. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. De Kraftwerk aux Beatles, enfin voilà, la liste, je prends ces groupes-là, mais je pourrais être sur plein d'autres. J'avais pensé à Burial, j'avais pensé en gros des personnes qui creusent des sillons, à Radiohead, à Björk, qui ne restent jamais au même endroit finalement.
Ouais, okay.
Et c'était peut-être ça le fil conducteur, pour se donner aussi en termes d'imaginaire, un imaginaire le plus large possible, se dire que finalement derrière cet événement, c'est les musiques dites indépendantes ou issues d'une certaine, on va dire, les Américains diraient alternative, faussement déconnectées de l'industrie, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, mais néanmoins, peut-être des démarches plutôt DIY, des personnes qui pressent eux-mêmes, qui pressent eux-mêmes leurs disques, qui sont issus de fanzines, de radio associative, toute une énergie qui est malmenée et en même temps qui est bien présente et qui, de plus en plus, je trouve... fait sa vie. Et c'est un peu ce qu'on a essayé, on va essayer de raconter à travers Cool Sing.
Ok. Et du coup, là, cette année, il y a au total 20 projets qui sont programmés sur les deux jours. On va peut-être commencer par un focus sur la programmation Antipone.
Ouais.
Donc, c'est les soirées du vendredi soir et du samedi soir, qui, elles, sont payantes. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur la programmation, faire un focus particulier ou de manière générale, présenter un peu ce qui va se passer?
Il y aurait tellement à dire sur ces 10 artistes sur les soirs Antipode, mais 20 au total. Se dire qu'en fait, finalement, il y a très peu, pour ne pas dire pas d'artistes qui sont arrivés là par hasard. Derrière chaque artiste, il y a une histoire, il y a une anecdote. Je sais pas, je pourrais commencer par Marie Davidson, qui a sorti son 4e, 5e album, là, qui s'est rapproché de l'équipe Solwax. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Marie Davidson il y a un peu plus de 10 ans. Elle était dans un groupe qui s'appelait Essepa. Et pour la petite histoire, il y a un pont entre Marie Davidson, qui joue le vendredi, et Zoé Zelton, qui joue le samedi. En fait, elles ont... toutes les deux étaient sur le même label qui s'appelle Teenage Menopause.
Okay.
Donc voilà, c'est un exemple de pont qu'on pourrait tisser. Peut-être, je vais reprendre ce que quelqu'un a pu écrire sur Internet. Le point commun entre tous ces groupes, c'est que les lives vont être, et je le cite, dingues. Et je crois qu'il y a vraiment cette dimension que chaque live va avoir sa singularité, sa force, son intelligence propre, son originalité. On disait tout à l'heure le pas de côté. Ça va être le cas, je pense, pour tous les lives. Il y a des formes qui vont être très performatives, un peu drôles. Je pense à Snap Uncles, que certains avaient pu découvrir, je pense, sur les transmusicales en 2017 ou 2018. Donc, c'est 4-5 personnes qui arrivent sur scène, qui sont... dans des tenues florales, qui ressemblent à des arbres ou des paillasses d'herbe. Et ils transforment, ils manipulent, ils fabriquent à partir d'éléments qui viennent agréger à des instruments dits classiques. Donc tous leurs instruments sont finalement augmentés.
Okay.
Et ça donne un mélange entre... post-punk, crotrock, disco-punk, pop, voilà. Et finalement, quand on regarde chacun des projets, on va avoir cette... il y a une histoire, il va y avoir quelque chose de très singulier. Je suis content de pouvoir présenter Mono, parce que c'est vrai que... Alors, c'est pas moi qui vais les présenter, mais en tout cas, que Mono puisse jouer à Rennes.
Ouais.
Parce qu'on est sur un groupe japonais, alors eux, ça va être fin des années 90. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'albums. C'est des musiques que vous avez entendues sur des musiques de films, notamment. Et on est sur un post-rock qui pourrait se rapprocher d'un Mogwai. Mais finalement, ça reste peut-être plus arrangé que Mogwai et assez surprenant. Alors, c'est aussi étonnant. C'est un groupe qui est autant adoubé par la scène métal que la scène pop. Ça mélange des éléments de musique classique, musique contemporaine et puis de rock tendu, quoi.
Ouais. Et le vendredi, ça va être assez électrique entre quand même Yard, Parce que le live est quand même assez puissant de Yarn.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Puis Marie Davidson qui va clôturer la soirée.
Ouais.
Ça va être très puissant, je pense, dans l'Antipone, ces deux lives.
Non, non, c'est sûr que c'est... Ouais, c'est deux... ouais, c'est l'enchaînement de ces deux artistes ouais. un peu électrisé. Non, et après, il y aura un contraste très marqué, parce qu'on a deux artistes sur cette soirée de Dublin. Et c'était intéressant, parce que... Yard, ils sont originaires de Dublin.
Ouais.
Donc, si vous voyez l'Irlande, c'est côte est. Et côte ouest, il y a Maria Somerville qui, elle, fait plutôt de la dream pop, entre dream pop, folk, shoegaze. Alors, depuis, elle s'est installée à Dublin, mais elle est originaire de Galway. Donc, vraiment, un petit port sur la côte ouest irlandaise.
Okay.
Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un vrai démarrage en douceur. J'ai eu l'occasion de voir le live sur un événement en Hollande en avril de Maria Somerville et c'est de toute beauté et il va y avoir une bascule, on va glisser vers une suite de soirées particulièrement festive.
Faut juste voilà. se laisser aller quoi, se laisser guider. Et oui, j'allais dire, il y aura aussi des DJ ouais. du coup qui vont ouvrir les soirées, fermer les soirées, faire les interplateaux.
Tout à fait.
C'est un truc que tu programmes régulièrement dans le nouvel Antipode.
Ouais, complètement. Et puis là, pareil, il y avait plein d'idées. Et puis il y a une évidence avec un duo de DJ set. Alors pour le coup, moi, j'ai pas vu. je les ai rencontrés. Et en fait, l'échange, il y a eu un truc un peu, je sais pas, évident. Je me suis dit, mais eux, faut qu'ils soient sur la soirée, c'est sûr. Donc un duo qui s'appelle T-Spark. Ça, c'est le vendredi. Et le lendemain, là, c'est une autre histoire. Donc, c'est la Société des Eaux du Nord.
C'est Dunkerquois.
C'est ça. C'est Marie qui a la communication des quatre écluses à Dunkerque. Et puis, Benjamin qui a la programmation. Ils ont un duo de DJ. Grosse culture musicale. C'est des gens que je croise beaucoup sur les festivals à l'étranger. Et puis, qui ont très peu de temps, se sont retrouvés sur 2-3 festivals programmés en DJ set. Et je me suis dit, mais faut qu'il soit de la fête.
Ouais, grave. Voilà, du coup, ça, c'est vendredi soir et samedi soir à l'Antipode. Ouais. Mais il y a aussi le samedi après-midi, un petit parcours itinérant dans les quartiers Clonay et Courrouze,
ouais.
avec des lieux partenaires.
C'est ça.
Est-ce que tu peux faire une petite présentation un peu de ce qui nous attend le samedi après-midi ?
Ouais, il y a 7 lieux. Alors, il y a un lieu qui est intégré à l'Antipode, en tout cas qui est dans l'Antipode, c'est la bibliothèque. On accueillera... un duo un peu insolite qui s'appelle Fulguromatique, qui mélange des ambiances jazz, musique improvisée et rock. Il y a une petite particularité, c'est qu'il a l'un des musiciens a inventé un instrument. Alors, je ne saurais pas bien vous l'expliquer. Est-ce qu'il pilote ? Est-ce que ça interagit entre le fait de souffler dans un instrument et son orgue ? Bon, il y a un jeu de va-et-vient entre les deux. Puis il y a une énigme, mais il y a une surprise parce que ça crée aussi une touche très particulière. Et donc le binôme est constitué d'une batterie, sinon. On accueillera la chorale Louvre dans la station de métro Clonay. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la station de métro, elle a cette particularité d'avoir un espace un peu cathédrale, en tout cas très grand en bas des escalators. Donc c'est à la fois l'occasion de découvrir une station de métro, mais aussi cette chorale féministe portée par Ellie James. Que j'avais pu voir au FRAC, je crois que c'était en avril ou mai, et qui m'avait fait grande impression. Donc je suis impatient de les voir, parce que je pense que c'est une histoire qui ne cesse d'évoluer, de grandir. À la Maison des Familles, donc là c'est derrière la station Clonay, c'est vraiment au cœur du quartier de Clonay. Une maison où on vient y faire des différentes activités. Là on accueillera un artiste qu'on a pu... avoir en résidence la saison passée, qui s'appelle Greg Aldur, qui a inventé un dispositif musical automate tout en bois qui sera installé au cœur de la Maison des Familles et sur lequel il donne un concert. Sur la partie Courrouze, on aura un pianiste qui joue de l'ambiance. Alors, j'allais dire un pianiste agriculteur parce qu'il s'appelle Hugo Maillard, il est agriculteur au quotidien. Il sort des très très beaux disques entre piano, ambiante et musique improvisée. Je suis très très content d'accueillir Hugo. Donc ça, il jouera La Petite Reine, donc de l'association de réparation et de vélo au sens large. J'en oublie, Bloom Pop. Ouais, Bloom Pop, on accueillera des Canadiens originaires du Vermont. Je crois qu'ils sont à Toronto maintenant. On en avait accueilli certains membres qui jouaient dans Crack Cloud. D'autres jouent dans Potrick, certains avaient pu voir. Alors, je ne sais plus si ils avaient pas joué à la Route du Rock, peut-être. Et puis d'autres jouent dans Novel, donc c'est une sorte de super groupe
okay.
qui mélange rock, garage, pop. Il y a un album qui doit arriver, là, qui va être annoncé, à mon avis, en surprise dans les prochains jours. Le prochain album, le deuxième album, sort sur le label de Mac DeMarco.
Okay.
Et en ouverture, toujours à Bloom Pop, un trio qui est basé à Paris, qui est emmené par une guitariste chanteuse qui s'appelle Mira, que j'avais l'occasion de voir. Et là, on est plutôt sur un rock garage très nerveux, très très saturé et une très grosse énergie. On a un chapiteau de cirque aussi.
Trop bien.
Ouais, juste à côté de l'antipode, c'est le Bing Bang Circus. Et là, il y aura deux formations. Une formation qui est bien connue du public rennais, c'est Cat White, pareil, qu'on a eu l'occasion de suivre, d'accompagner à l'antipode. Et en deuxième partie d'après-midi, un artiste qui est peut-être dans mes gros coups de cœur, on peut le poser comme ça. Vous savez, c'est quand on est programmateur, des fois on envoie des bouteilles à la mer, on écrit à des gens en disant si ça ne va pas les intéresser. Et puis là, il y a eu une réaction immédiate, oui, ça m'intéresse et je viens. C'est un artiste qui est basé à Londres, qui est originaire du Ouganda, qui s'appelle Dodi Matsiko. C'est un mélange entre du José González, peut-être Sufjan Stevens, Nick Drake. C'est très beau, c'est très délicat, c'est très très bien arrangé. C'est pour moi l'une des grandes énigmes, je pense un des très gros albums de 2024 et qui est passé complètement inaperçu. Oui. Et je pense qu'on y reviendra. Je pense que c'est un album qui... Parce que là j'ai vu qu'il est pressé régulièrement, donc il doit être au 4e, 5e pressage. Mmh. Je pense que ça fait partie de ces albums qui feront date, je pense, dans le temps. Il évoque ses problèmes de santé, sa vulnérabilité par rapport à la maladie mentale. Vraiment un très très beau projet. Et puis le dernier lieu, parce que je suis bavard, je suis désolé.
Non, mais
le dernier lieu, c'est Grabuge, où là, on accueillera un duo qui s'appelle Flying Bones, donc pareil que les Rennais connaissent bien. Il y a ce chapeau mexicain à la guitare et cette batterie. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir, foncez voir Flying Bones. Et puis, en deuxième partie d'après-midi, une artiste originaire d'à côté de Bordeaux qui s'appelle Nayamo.
Nayamo.
Avec un duo batterie-guitare. Et là aussi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très, très fort dans ce projet. En tout cas, j'y crois beaucoup. Mmh. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va prendre dans le temps pour elle.
Ouais.
J'ai vu que sur un certain nombre de rendez-vous professionnels, elle se retrouvait programmée là, entre la fin d'année et le début 2026. Donc je pressens un bel avenir pour elle. En tous les cas, je croise les doigts pour elle.
Ouais, moi aussi.
Donc tout ça est un parcours gratuit entre 15h et 18h30.
Okay.
On est sur des petites jauges. Il y a vraiment ce rapport de proximité. Cette envie finalement de faire corps à l'échelle d'un territoire, de venir découvrir aussi autour de l'antipode. J'entends beaucoup de personnes qui viennent à l'antipode pour emprunter un livre, un disque, faire une activité, venir à un concert, mais qui ne connaissent pas forcément ce quartier, cet éco-quartier qui est aussi en pleine mutation, qui est très agréable à vivre. Mmh. Et donc toute la logique, c'est que les gens puissent passer du temps sur l'après-midi, manger à Grabuge ou à Bloom Pop.
Réparer son vélo
à Petite Rennes. Et puis après, venir à l'antipode pour la soirée.
Ok, trop bien. J'avais juste une petite dernière question, mais tu en as parlé un petit peu sur la programmation des groupes locaux.
Ouais.
Tu as parlé de la dimension internationale, mais il y a aussi une dimension locale, un petit peu.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est les artistes qu'on a pu citer.
Cat White, Flying Bones.
Ouais, c'est ça. Fulgur Aubatique.
Ah oui.
Greg
Aldur. Ouais.
Hugo Mayer.
Et Hugo Maillard, tout à fait, voilà.
Okay.
Tout à fait. Non, donc,
incarne la prog, c'est pas
mais
mal.
C'est vrai qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas beaucoup d'artistes du territoire, et finalement.
Louvre aussi.
Ah bah oui,
ouais.
Louvre aussi.
Louvre, tout à fait.
Eh bien, merci Gaëtan pour cette belle présentation. Rendez-vous les 7 et 8 novembre à l'Antipode et dans les quartiers Clenay-Courouze.
Clenay-Courouze.
Oui.
J'ai toujours pas de jingle, mais j'ai envie de faire un jeu avec toi, s'il te plaît, secondes. S'il te plaît.
Non,
je crée un jingle à l'impro, comme ça. Tu me donnes un morceau et je te fais le jingle sur la musique.
Céline Dion.
Lequel?
My Heart Will Go On.
La découverte fluxiante. La découverte fluxiante. Je t'ai fait le début. Ouais. Bon.
Gros malaise sur le plateau.
Quel enfer, de toute façon. J'en peux plus de ces jingles. Bref, aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous faire découvrir, du coup, une artiste dont on vient de parler, qui fait partie de la programmation de Cool Sing. Elle s'appelle donc Nayamo, elle vient de Bordeaux comme disait Gaëtan, elle jouera dans le cadre du parcours gratuit du samedi après-midi. Nayamo, c'est un projet solo qu'elle a lancé en juin 2024 qui propose une sorte d'indie rock introspectif, j'aime bien cette définition, je trouve que ça lui va très bien. Son premier EP Dealing with Ghosts est une exploration intime des fantômes qui hantent nos pensées, nos corps et nos souvenirs. On écoute tout de suite Wanderlust.
T'as essayé un truc, mais ça n'était
qu'est-ce
pas...
Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu me disais quoi? Ah ouais, j'adore. Voilà, pour une fois, un invité qui le dit, ça fait plaisir.
T'es prêt à jouer, Gaëtan? Je sais que t'adores les jeux.
C'est exactement.
Alors, le thème, que pour ça.
Petite question pour un champion. Tu connais, c'est un petit texte, j'ai écrit un petit texte, il faut que je vous fasse deviner quelque chose. Il y a quatre... c'est un duel entre Marie et toi. Et le thème, puisqu'on parlait de Cool Sing, c'est des pochettes d'albums hyper cultes.
Donc oh faut trouver oh le titre. Là, ça va être ouais, ça va être la guerre
le
entre
titre de l'album en question.
Non, je suis pas sûr.
En vrai, c'est des trucs que normalement donc, tout le monde connaît.
Okay.
Est-ce que t'es prête, Clara, à lancer le petit truc?
Les pochettes d'albums. Ok. On donne
je suis la pochette du 9e album d'un groupe anglais originaire de Londres. Paru en 75, je transmets l'idée que les gens ont tendance à dissimuler leurs sentiments par peur de se brûler. Je mets donc en scène deux hommes d'affaires face à face dans la rue en train de se serrer la main, dont l'un a le corps en feu. L'album comprend notamment les titres Have a Cigar et Shine on You Crazy Diamond. Et mon groupe a été fondé par Syd Barrett. Je suis.
Sex Pistols, ça
non, Pink Floyd.
Pink Floyd, oui.
Ah, oh, ok, oh, Wish You Were Here.
Je vois la pochette maintenant. Je vois la pochette.
Tu vois la pochette?
Ouais, tout à fait.
Ok.
Bah, moi, je crois en vrai.
Je me suis trompé de si je pensais avoir affaire à deux professionnels de la musique.
Pourquoi tu nous mets des vieilles refs là?
Mais elle est hyper culte cette album.
Purée, mais.
Non? Bon, ok. 0-0. Deuxième tentative, let's go. Je suis la pochette du premier album d'un groupe américain, album notamment composé de quelques ballades pop mélancoliques devenues incontournables. Sorti à la fin des années 60, j'avais un autocollant sur la pochette indiquant « Peace, Slowly and See », laissant entrevoir une banane épluchée couleur chair une fois décollée.
Bah, les Velvet Underground.
Oui, bravo.
Ah mais c'est marrant, attends. Ok, bah la banane quoi.
Ouais.
Mais
Bah je peux pas dire pochette, enfin, le but c'est de pas faire deviner en une phrase, donc je dois faire monter le truc.
C'était bien.
Plus ça va, plus les indices sont dans
le Je crois que j'ai un point.
C'est clair.
1-0 pour Malouf. Troisième tentative, let's go. Réalisé en 2001 par Colin Lane, je suis l'artwork du premier album de ce groupe de rock originaire de New York. Un titre se moquant de la police new-yorkaise a été remplacé des matraquilles pour éviter les polémiques après les attentats du 11 septembre.
Hein?
Vas-y, plus
t'as
fort.
T'as dit quoi?
Des Strokes.
Ouais.
Ah.
Ils visitent des Strokes.
Aïe, aïe, aïe. Ok.
Le premier album de.
En fait, je les vois toutes, mais il faut le temps que ça vienne. Quoi.
Ah, bah c'est le but du jeu, il faut être rapide. En plus, il nous reste.
Oh non. Et voilà.
Un partout, le point pour se départager.
Oh la pression.
C'est bientôt fini, Gaëtan, t'inquiète.
J'espère que c'est pas un Radiohead.
Ce n'est pas un Radiohead.
Ok.
Let's go. Album au titre hyper long du début des années 70, je suis le cinquième disque de mon interprète britannique, photographe de Brian Ward, colorisé par la suite, je représente le chanteur qui semble venir d'une autre planète, guitare à la main.
Bowie, non ?
Ouais.
Oh ! Lequel ?
Le long E. The Rise and Fall of Ziggy Stardust.
Ouais, mais tu dois le dire sur la pochette de l'album,
oui, c'est vrai.
Oui, mais vu les... J'ai contourné les règles.
Je sais pas trop si on doit compter ce point, moi.
Si. Si, c'est good.
On le partage avec
si. Ah ouais, allez. Ouais.
C'est The Rise and Fall of Ziggy Stardust.
En vrai, je savais même pas que
c'était. Spiders from Mars.
Ah ouais, ok. Oh.
2-1 pour Gaëtan.
Bravo Gaëtan, vous avez gagné.
C'est le Pink Floyd, je sais pas pourquoi je vois exactement le truc, j'avais et puis il en venait pas. Bon,
c'était quasi plus simple, je trouvais. Moi. C'est The Velvet Underground quand même.
Mais les Velvet, c'est la manière dont t'es arrivé sur le sujet.
Si je dis tout de suite les gros indices,
ça n'a plus trop de sens.
Oui, c'est le Velvet de Nico pour moi.
C'était génial. Merci Cyprien pour ce grand moment.
Mais ce n'est pas fini de jouer, Gaëtan.
Oui.
Encore.
Et on va passer au recours rennaise des invités.
Oui.
Je te passe le.
Pas de jingle.
Pas de Maria Carré, pas de Céline Dion. En gros, je te pose une petite série de questions et tu me réponds. Voilà.
Il est dépité.
Cette rubrique, elle est faite pour mettre à l'honneur notre ville chérie, Rennes. Mais pas que, d'ailleurs. Si tu pouvais, et d'ailleurs, on commence, c'est vraiment pas du tout une question avec Rennes.
Et même tout, en fait.
Si on commence, allez. Ton resto préf à Rennes, ton resto préféré, c'est quoi?
Je crois que c'est... Je sais plus le nom, c'est Kaboul. Rennes Kaboul, je crois.
Rennes Kaboul, c'est où ça?
Restaurant afghan en haut de la rue d'Entrain.
On parle toujours d'un très bon... Ok, j'en prends bonne note.
On y était allés ensemble.
Ouais.
Le dernier album que tu as écouté et qui t'a marqué?
Water from the Eyes. Ah, mais j'aime bien.
C'est le nom du groupe, ça?
Ouais, c'est le nom du groupe. Je ne sais plus le nom de l'album, mais non, j'aime bien aussi... Radio Moon Pleasant. Et c'est le titre de l'album aussi.
Ok.
Groupe américain que j'aime beaucoup, beaucoup.
Vas-y, réécoutez.
Tiens,
ton podcast préféré?
Là, il y en a beaucoup. Donc ça, je ne vais pas pouvoir te répondre.
Il n'y en a pas un que tu as envie de nous faire découvrir? Comme ça.
Non, parce que j'en écoute pour le coup beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne saurais pas trop te dire.
Ah ouais.
J'en écoute beaucoup, mais sur France Culture, j'écoute beaucoup. Et puis c'est en décalage, donc...
Genre Les Pieds sur Terre, ouais, ou LSD. Les Pieds sur Terre, il est génial, ouais. Celui-là. Ok.
Il y en a plusieurs.
Ton spot préféré à Rennes, quand tu reçois tes parents? Où est-ce que t'aimes bien les emmener?
Un petit salon de thé.
Je trouve que c'est toujours dans ce moment-là où on essaye de, je sais pas, de les emmener dans un endroit. Moi, c'est ce que je fais avec mes parents. Ouais.
Je sais pas, parce qu'en fait, ils aiment bien découvrir différentes choses tout le temps. Donc, c'est plutôt à chaque fois, on va sur un endroit un peu différent. Ouais.
Ok.
Même si là, récemment, on est allé deux fois à Bloom Pop parce que mes parents ont bien aimé Bloom Pop.
C'est vrai que c'est cool comme endroit. Hein. Si tu pouvais ressusciter un ou une artiste le temps d'un concert que t'as pas vu, du coup, ce serait qui?
Alors, j'ai vu, mais j'aimerais ressusciter. Je vais tordre un peu la question. Je serais vraiment curieux de savoir ce que Kurt Cobain ferait maintenant. Et je me le dis souvent. Comment il aurait vieilli, qu'est-ce que... Je sais pas.
Comment ça aurait évolué, quoi.
Comment ça aurait évolué.
T'as rematé le live sur Arte, là, qui est passé il n'y a pas longtemps. Arte ou français, je sais plus.
Il y a un podcast que j'ai écouté sur, finalement, tout ce qu'on n'a pas su, on ne nous a pas dit sur la session acoustique. Qui est assez passionnant. En fait, il avait un peu tout orchestré, tout organisé, même en partie dans le dos des autres membres du groupe, avec des effets, des enregistrements, comme s'il livrait quelque chose. Lui, il devait savoir qu'il livrait une sorte de dernière pièce et qu'il fallait que ce soit parfait. Il s'est mis la pression. Le podcast explique tout ça. Et il y avait ce côté énergie brute. Je trouve qu'il y a plein de choses qui apparaissent actuellement dans la société que lui, j'ai l'impression, avait déjà comme intégré, ou en tous les cas, il était déjà raccord avec tout un tas de choses qui sont très valorisées, en tous les cas, qui sont très marquées actuellement. Donc, il en serait où maintenant?
Et quand tu les as vus, c'était au Trans en 91?
Ouais, je les ai vus deux fois ou trois fois.
Ah oui, ok. Ouais. Il n'y avait pas que ça. Ok.
Mais j'aimerais.
Et il n'y a pas un artiste quand même que tu n'as jamais vu et tu te dis, ah, c'est con quand même.
J'ai pas vu David Bowie. J'aurais bien aimé voir David Bowie. J'ai pas vu les Beatles aussi, tout à l'heure. Bon, ça paraît être des grosses autoroutes, mais.
Mais revoir Kurt Cobain quand même.
Mais Kurt Cobain, c'est le revoir, mais.
Maintenant quoi.
Ouais, qu'est-ce qu'il serait devenu, comment il dirait les choses, et peut-être qu'il dirait rien, peut-être qu'il aurait complètement arrêté. Peut-être la même chose, il y en a quand même deux autres. Amy Winehouse, j'aurais bien aimé voir aussi. Et puis un autre que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est Jeff Buckley.
Ah, moi, c'est ça. C'est ma réponse à cette question, c'est Jeff Buckley. T'imagines, l'Olympia, Jeff Buckley. Allez, bisous.
Ouais, c'est ça, bisous, exactement.
Le Dream Brother, là, je paierais. Quel morceau tu aimerais de nouveau écouter pour la première fois? Elle est pas facile.
Ou un album, on peut voir plus large qu'un morceau.
Oui, tu peux si vraiment. Mais je sais pas, il n'y a pas un morceau comme ça.
Pour retrouver les sensations, quoi.
Ouais, les sensations de la première fois.
Il y en a plein, il y a plein de moments différents. Le premier album sorti sur SCAM de Boards of Canada. Ça m'avait vraiment fait quelque chose de très 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 particulier à l'écoute. Je sais pas, il m'avait vraiment beaucoup 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 marqué. Et dans un tout autre registre, parce que je l'ai découvert d'abord sur scène, et quand quelque chose vous saisit sur scène, en tout cas pour moi, quand ça me saisit sur scène, j'apprends beaucoup le passage à l'audio. Et le premier album de Tamino.
Ah ouais,
okay. Ouais.
C'est vrai qu'il est très beau cet album. Tu connais toi, Cyprien?
Ouais.
C'est beau, Tamino.
C'est un des albums. Ouais. En fait, quand je l'ai eu sur ma platine, il n'y avait pas la déception. C'est toujours la crainte de. Quand on a vu quelque chose de très bien sur scène, on se dit quand ça va arriver en audio, ça va pas le faire.
C'est vrai.
Ok. Mais je pense qu'il y en a plein. Tu vois, cite ceux-là. Non, mais c'est dur. Hein. Mais je pense que
je pourrais en mettre 10 aussi. Hein.
Ouais, c'est ça.
Mais le but, c'est pas de donner le plus, un de ces morceaux-là, en tout cas.
Je pense que le premier Boards of Canada, avant qu'il arrive chez Warp, là, celui-ci me marque bien.
Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses.
Le portrait chinois de Malou.
Malou! Ah, il y a Gaëtan qui découvre le jingle en direct.
Non, non, je pensais que c'était fait en temps réel.
Ah oui,
ah. Non.
Non, on a enregistré ça chez moi. C'était très, très drôle, cette session, d'ailleurs. Alors, bienvenue dans ton portrait chinois, mon cher Gaëtan. La seule règle du jeu est qu'il faut que tu sois vraiment le plus spontané possible.
Ok.
Si tu étais une chanson de ton enfance.
Aline, j'ai crié. Ouais.
Christophe.
Ouais.
Si tu étais une queen de la pop, tu serais qui ?
Je sais pas. Peut-être Madonna, peut-être Britney Spears.
Ah ouais. Ouais, Madonna dans les années quoi ?
Au début.
80
ouais,
là.
Ouais, j'ai revu récemment plus des photos de Madonna très très jeune, qui sont exposées sur Paris, il me semble, actuellement en galerie. Vraiment hyper hyper jeune, elle est méconnaissable quoi.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'en avais revu aussi, période, c'est vrai qu'on la reconnaît pas.
Période Basquiat, enfin c'est. Ouais.
Si tu étais justement une œuvre d'art.
C'est compliqué moi parce que ayant fait des études d'art, je
le serais. Ou un tableau si tu veux.
Non, je suis pas capable de te dire. Je pense que ça serait Non, je suis incapable.
Ok. Joker.
Il y a trop. Allez. Je peux en citer trop. C'est ça le problème. Là.
Ok. Tu réfléchiras, tu me diras demain.
Ouais.
si t'étais une couleur.
Soit un orange vif, soit un.
Années 70 là.
Ouais. Soit un bleu royal.
Ah ouais, ça c'est beau.
Mais
ça.
Très très soutenu.
Ok.
Tu es un peu le bleu.
Le roi ?
Ouais, bleu clin.
Ouais,
plutôt.
Bleu clin, le clin
ouais,
quoi.
Ouais,
okay.
C'est ça.
Et pour finir, si tu étais un morceau de Radiohead, tu serais lequel ?
Ah, alors ça. Bah alors. Ça va surprendre. Peut-être ça va surprendre parce que je pense que ça serait un morceau de Kid A. Parce que ouais. Vraiment, j'adore cet ouais. album. Et en même temps. C'est assez rigolo que tu poses la question parce que ça a été le fruit d'une discussion il n'y a pas très longtemps. Et peut-être celui qui me secoue, saisit le plus maintenant encore et que je. Ça reste Creep.
Ah ouais.
Ah ouais. Ouais.
Putain, tu dirais Creep.
J'avoue, c'est.
Et c'est lequel de Kida quand même ?
Bah, y en a plusieurs, je pense.
Optimistique, je l'ai redécouvert là, moi, la semaine dernière. Je l'adore. Optimistique, il est
en
trop
fait,
bien.
C'est vraiment un album que je place très haut. Mais Creep, je sais pas, il y avait quelque chose. Okay.
Non, mais j'aime bien cette réponse, tu vois.
J'aurais
jamais dit ça.
Il faut qu'on conclue. Les
amis. Ouais, il faut qu'on y aille.
Merci beaucoup, Gaëtan. Ouais. Est-ce que
tu
as passé un bon moment ?
J'ai passé un bon moment et ouais. J'adore jouer avec vous.
Ah, voilà, super. Merci Clara pour la technique.
Merci
Malouve. On se retrouve du coup les 7 et 8 novembre à l'Antipode et dans les quartiers Clénécourt ouais. pour la deuxième édition ouais. de Cool Thing. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Ciao
oui, oui. Bisous, les amis.